Okay, on va commencer notre sixième leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Ce soir, on va regarder la sanctification, son côté pratique, c'est que c'est un combat. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, dit « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. » Nous ne réalisons pas suffisamment que nous sommes en guerre. Cette guerre est réelle et vraie. C'est une guerre de nature spirituelle avec des conséquences éternelles et irréversibles. Cette guerre implique des conflits et des blessures. Elle comporte des veilles et des fatigues. Elle apportera bien sûr des sièges et des assauts et elle nous fera vivre des défaites et des victoires comme dans toutes les guerres. Le sujet du combat et de la guerre spirituelle se doit d'être bien compris, car il implique de très forts liens avec la sanctification. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Alors, le premier point qu'on va regarder, la sanctification authentique oblige au combat. Alors, la Bible compare le chrétien à un soldat. En temps de guerre, le soldat ne vit pas une vie d'indolence, de facilité et de sécurité. Il est profondément engagé dans le combat et doit se battre. Alors, il doit se battre avec quoi? Premièrement, il doit se battre avec la chair. Le croyant garde, même après sa conversion, une propension au mal avec un cœur faible et instable comme l'eau. Pour empêcher ce cœur de déraper et de succomber, il doit veiller et prier. Comme c'est mentionné dans Marc, chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Romains, chapitre 7, verset 23 et 24. « Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? » Galates chapitre 5, verset 24. « Or ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » Colossiens chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. » Deuxième chose contre laquelle il doit se battre avec le monde, la subtile et néfaste influence de ce puissant ennemi doit être résistée quotidiennement. Sans cette bataille, cette influence ne pourra être surmontée. L'amour des choses du monde, la peur de faire rire de soi ou d'être méprisé, et le secret désir de se fondre dans le monde et de faire comme eux sera toujours présent, bien sûr, dans nos vies. Jacques, chapitre 4, verset 4. « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Galates chapitre 6, verset 14. « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » 1 Jean chapitre 5, verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Romains 12, 2. « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Troisième chose contre laquelle il doit se battre avec le diable. Le vieil ennemi de l'humanité n'est pas mort et est extrêmement actif avec sa horde de démons. On voit par exemple dans Job chapitre 1, verset 7, « Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Jean 8, verset 44, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Bien sûr, dans le contexte, il parle des Juifs qui n'étaient pas convertis. Éphésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » C'est une très grave erreur que de sous-estimer la puissance de l'ennemi de nos âmes. Luc 13, verset 24, « Et il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne le pourront. » 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19, « Mon fils Timothée, ce que je te recommande, c'est que, conformément aux prophéties qui ont été faites précédemment sur toi, tu combattes, suivant elles, le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience, quelques-uns ayant perdu celle-ci, on fait naufrage quant à la foi. » Et autre point qu'on se doit de mentionner, il se doit de se battre inévitablement. Le croyant n'a pas d'option. Il doit se battre ou se perdre. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. C'est une nécessité absolue. Personne ne peut plaider qu'il est un homme de paix et chercher à éviter les inconvénients de la guerre. C'est la voie qui mène à la destruction de son âme. C'est une nécessité aussi qui est universelle. Aucun rang, classe sociale, sexe ou âge ne peut plaider l'exemption ou échapper à la bataille. Les ministres de la parole et le peuple de Dieu, les jeunes et les vieux, les rois et les sujets, les patrons, les employés, les érudits et les ignorants doivent prendre les armes. Tous ont par nature un cœur plein d'orgueil, d'incrédulité, de paresse, de mondanité et de péché. Tous vivent dans un monde plein de pièges et d'embûches. Tous sont attaqués par un diable malicieux, infatigable et extrêmement actif. C'est aussi une nécessité de nature perpétuelle. Il n'y a dans cette guerre aucun armistice, aucune trêve. La guerre est 7 jours sur 7. Elle se passe en public comme en privé, dans la famille, dans l'église, au travail, dans les loisirs, etc. Nous sommes sur le terrain de l'ennemi. Luc 11, verset 21-23. « Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Mais quand quelqu'un plus fort que lui survient, il le terrasse, lui ôte toutes ses armes auxquelles il se confiait et partage ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi dissipe. » 2 Timothée chapitre 2, verset 26, « Et qu'il sorte de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. » Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que la sanctification, c'est un combat mené par la foi. Le combat est de nature spirituelle et n'est pas mené avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. La foi est le pivot sur lequel tourne toute victoire. Donc, la foi, premièrement, la foi générale qu'on se doit d'avoir envers la vérité de la parole écrite de Dieu, La Bible, bien entendu, est la fondation sur laquelle est bâti le caractère du soldat chrétien. Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, la première sorte de foi, c'est envers la parole écrite de Dieu. L'autre, c'est la foi spéciale en la personne, l'œuvre et les offices de Jésus-Christ. C'est la vie, le cœur et la source du caractère chrétien. Romains, chapitre 8, versets 36 à 39. Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Autre sorte de foi, dans la foi habituelle, dans la présence de Christ, toujours prêt à nous aider. La foi, bien entendu, admet des degrés. Mais le soldat chrétien qui vivra le plus dans la foi absolue de la présence continuelle de Christ à ses côtés et qui comprend que Christ est toujours disposé à l'aider sera le soldat le plus heureux et le plus réconforté. Éphésiens, chapitre 6, versets 16 et 17. « Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. « Car c'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Et je suis persuadé que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 6, 14. Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en d'autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Il est impossible de surévaluer l'importance de la foi dans le combat. Nous avons d'innombrables preuves de la vérité de cette affirmation dans les récits de la Bible elle-même, dans Hébreux 11 en particulier, et dans beaucoup d'autres passages à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bien entendu, dans l'histoire de l'Église, dans la noble armée des martyrs de la foi, dans la Réformation, avec Wycliffe, Huss, Luther, Calvin et une multitude d'autres, nous pouvons aussi le constater dans la vie des grands serviteurs de Dieu, Whitfield, John Newton, Charles Spurgeon et d'innombrables autres serviteurs et servantes. Luc 17, verset 5. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Pour moi, j'ai deux fois le même... En tout cas, le troisième point qu'on va regarder, la sanctification est un bon combat. Le mot « bon » est un mot curieux lorsque nous parlons de guerre. Toute guerre humaine est plus ou moins remplie de mal, même si parfois c'est pour assurer la liberté des nations ou prévenir que les faibles et les pauvres soient écrasés par les riches et les puissants. Les guerres humaines sont toujours remplies de sang innocent et de souffrances indescriptibles. Les guerres humaines font ressortir les passions les plus ignobles de l'homme. Elles causent d'énormes destructions de propriétés et de gaspillages. Elles remplissent les foyers de veuves et d'orphelins. Elles étendent la pauvreté, l'endettement et la détresse nationale. Elles détruisent l'ordre des sociétés. Elles arrêtent l'œuvre de l'Évangile et la croissance des missions chrétiennes. Maintenant, les raisons. On va regarder les raisons pour lesquelles le combat chrétien, on peut le considérer comme un bon combat. Premièrement, le combat chrétien est sous les ordres du meilleur des généraux. Le commandant en chef et leader est un sauveur divin, le Seigneur Jésus-Christ. Il est parfait et infini en sagesse, en amour et en puissance. Le capitaine de nos âmes ne faillira jamais à conduire ses soldats à la victoire. Il ne commande jamais de déplacement inutile. Il ne se trompe jamais dans ses jugements et ne commet jamais d'erreur. Ses yeux sont continuellement sur tous ses soldats, même les plus petits. Deuxième raison, le combat chrétien est mené avec les meilleures aides. La guerre est menée avec une triple corde, infiniment solide. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Autre raison pourquoi le combat est bon, le combat chrétien est assuré des meilleures promesses. Romains 6, 14, « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. » Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Isaïe 43, verset 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Jean, chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Jean, chapitre 6, verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Hébreux 13, 5, « Que votre conduite soit exempte d'avarice, soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Romains 8, 38 et 39, « Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quatrième raison, le combat chrétien est combattu avec les meilleurs résultats. Sans aucun doute, c'est une guerre dans laquelle il y aura de gigantesques luttes, des conflits agonisants, des blessures, des ecchymoses, des veilles, des jeûnes et des fatigues. Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jean 18, verset 9, c'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Cinquième raison, le combat chrétien fait du bien à l'âme de celui qui le mène, ce combat-là. Alors, les guerres humaines ont un effet très mauvais et démoralisant. Elles font appel aux pires passions humaines, endurcissent les consciences, sapent les fondements de la religion et de la moralité. La guerre spirituelle fait appel à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Elle fait la promotion de l'humilité et de la charité. Elle diminue l'égocentrisme et la mondanité. Elle encourage l'homme à fixer ses affections sur les choses d'en haut. Sixième raison, le combat chrétien procure du bien au monde. Toutes les guerres humaines ont un effet dévastateur à tous les niveaux. Elles véhiculent la pauvreté, le gaspillage et la souffrance. Elles apportent des blessures aux personnes, détruisent les propriétés, les sentiments, et le moral des populations. La guerre spirituelle hausse les standards de la religion et de la moralité. Elle décourage toutes les formes de dissolution, de malhonnêteté et de bris du sabbat chrétien. Septième raison, le combat chrétien se terminera par une récompense. Les guerres humaines amènent parfois des médailles, des honneurs et des titres. Cependant, ces choses sont éphémères et ne dureront pas. 1 Pierre chapitre 5, verset 4 « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » Alors, j'ai mis quelques applications, on y a mis 5. La première, soyons avertis. Nous devons nous engager fermement dans cette guerre spirituelle et abandonner nos poursuites de l'argent, du pouvoir et ou des plaisirs. Soyons fiers de faire partie de l'armée de Christ. Menons le combat avec tous nos moyens et avec la plus grande ferveur. Deuxièmement, soyons encouragés. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de la propagation de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit. Reconnaissons également le rôle essentiel de la prière. En Éphésiens, chapitre 6, verset 11 et verset 18, verset 11, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Et dans le verset 18, on a « Priant en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela, en toute persévérance, et priant pour tous les saints. » Troisièmement, soyons conscients. Nous souffrirons et ne nous embarrassons pas des affaires de la vie. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. « Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. » Quatrièmement, soyons rassurés. L'œil du Seigneur est constamment sur nous et la victoire est certaine. Hébreux chapitre 6, verset 12, « Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. » Hébreux chapitre 7, verset 25, « C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. » Cinquièmement, soyons remplis d'espérance. Le retour du Seigneur est proche. Apocalypse 21, verset 7. « Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Béni soit Dieu pour son don ineffable en la personne de Jésus-Christ. Amen.
Amen.